Pourquoi Afrique ? Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui édition du jeudi 22 septembre 2016 en direct de Washington. Idrissa Sidoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, début d'un retour à la normale hier après deux journées de violences meurtrières.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a insisté hier sur l'importance cruciale d'une élection dans le respect de la Constitution.
Au Gabon, le ton se durcit entre les camps Bongo et Ping après que le président a appelé au dialogue.
Ici aux États-Unis, nouvelle manifestation à Charlotte où l'état d'urgence a été déclaré par le gouverneur de la Caroline du Nord.
Poursuite de la 71e Assemblée générale de l'ONU à New York, nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place.
Ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En RDC, c'est l'apaisement. La vie a repris un cours presque normal hier à Kinshasa, après deux journées de troubles ayant fait une trentaine à une centaine de morts, selon les protagonistes. Des détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dans la capitale, la vie a commencé à reprendre ses droits hier, malgré la présence inhabituelle de militaires. Les transports en commun ont fonctionné, les pompes à essence et les boutiques ont réouvert. Après 48 heures de pillage et d'affrontements entre les forces de l'ordre et des jeunes manifestants hostiles au président Joseph Kabila, les bilans sont contradictoires. La police fait état de 32 morts, dont des civils et membres des forces de l'ordre, et pour beaucoup par balle. Pour l'UDPS, le parti d'opposition, ces violences ont fait plus de 100 morts, les pires violences qu'ait connues Kinshasa depuis janvier 2015. L'ONU, qui déploie en RDC sa plus grosse force de maintien de la paix au monde, s'est montrée prudente. Le pouvoir et le rassemblement de l'opposition se renvoient mutuellement la responsabilité des violences. Dans un communiqué, la présidence de la République a accusé hier l'opposition d'avoir transformé la manifestation en émeute sanglante.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, pour sa part, a lancé hier à New York un appel au calme au Congo et insisté sur l'importance cruciale de la tenue d'une élection présidentielle pacifique, crédible, transparente, dans les délais opportuns et dans le respect de la Constitution. Les membres du Conseil de sécurité condamnent fortement la violence qui a déjà conduit, selon la déclaration, à la mort d'au moins 32 personnes, dont 4 policiers, lundi et mardi à Kinshasa. Ils appellent toutes les parties à éviter de futures violences et provocations et à régler pacifiquement leurs différends. Ils appellent les autorités à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales, particulièrement la liberté de rassemblement.
Au Gabon, le ton est très vite monté hier entre les camps Bongo et Ping, ce qui rend plutôt difficile le dialogue souhaité par le président Ali Bongo, qui s'est dit prêt à rencontrer Jean Ping, son adversaire, à l'élection controversée du 27 août dernier. De Libreville, correspondance de Jean Revis d'Abani.
Lors d'une conférence de presse conjointe ce jeudi, le ministre de l'Intérieur, Paco Mobele Boubeya, son collègue de la Défense, Mathias Otunga Osibadjo, ont mis en garde l'opposant contre des nouvelles violences. Le ministre de l'Intérieur a indiqué aux journalistes, je cite, « Des petits groupes ont été constitués par le camp de Jean Ping pour s'attaquer aux écoles, aux édifices publics et aux commerces. » Fin de citation. Paco Mobele Boubeya dit détenir ses informations des services de renseignement. Plusieurs réunions se tiennent quotidiennement, selon lui, dans le camp de Jean Ping. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain-Claude Bilibinzé, également présent à la conférence de presse, a affirmé d'un ton grave que M. Ping sera arrêté s'il appelait une nouvelle fois ses partisans à descendre dans la rue. Le camp de l'opposant n'a pas encore répondu à ces nouvelles déclarations, mais son porte-parole, Jean-Gaspard Ntoutoumeï, a pour sa part déclaré lors d'une conférence de presse qu'un dialogue n'est possible que si Ali Bongo reconnaissait sa défaite. Difficile dans ce contexte de voir deux parties s'asseoir autour d'une table, puisque chaque camp campe sur sa position. À 72 heures de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle, le ministre de l'Intérieur a annoncé une présence massive des forces de l'ordre dans les rues de Libreville, écartant pour l'instant l'instauration d'un couvre-feu. En attendant, les Librevillois ont commencé à faire des provisions, craignant l'explosion de nouvelles violences. Libreville, Jean-Revis Davani, VO Afrique.
La médiation internationale au Mali, conduite par l'Algérie, s'inquiète des récents combats autour de Kidal dans le nord-est, entre groupes signataires de l'accord de paix, et elle a menacé hier les responsables de sanctions ciblées. Des affrontements entre le groupe d'autodéfense Touareg Imgad et allié Gatia, pro-gouvernemental, et la coordination des mouvements de l'Azawad CMA, ex-rébellion, à 85 km au nord-est de Kidal, ont fait une dizaine de morts. Le 16 septembre, Gatia a affirmé avoir depuis chassé la CMA de deux autres localités de la région.
Au Nigeria, les autorités annoncent que les élèves de l'école de Chibok, où avait eu lieu l'enlèvement de quelques 200 lycéennes il y a deux ans, pourront retourner en classe le mois prochain. John Lyndon.
Inoua Kubo, ministre de l'Éducation de l'État du Borno, a annoncé que tous les collèges et lycées du district seraient rouverts le 3 octobre. Il a expliqué que certaines écoles n'étaient pas encore sécurisées et que les élèves seront regroupés dans les endroits plus sûrs. La Government Secondary School, où se trouvaient les 276 lycéennes enlevées en avril 2014, avait été rasée pendant l'attaque des djihadistes. L'établissement n'a toujours pas été réhabilité. D'après le ministre régional, les élèves partageront les locaux d'une école primaire voisine. Les habitants ne cachent pas leur scepticisme. L'école primaire en question accueille déjà des enfants d'un autre collège détruit. À Chibok, 57 écoles primaires et 9 collèges sont toujours fermés. En mars dernier, le gouvernement avait recensé 5335 salles de classe détruites, dont plus de 500 écoles, 38 collèges et 2 lycées. L'UNICEF estime que plus d'un million d'enfants ont abandonné les classes depuis 2009.
À New York, poursuite des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'ONU, le point avec notre envoyé spécial Timothée Donangmaï.
Parmi les réunions de haut niveau prévues ce jeudi à l'ONU, deux concernent les femmes. La première porte sur un nouvel agenda pour les femmes, la paix et la médiation, et l'autre sur l'autonomisation économique des femmes. Deux réunions qui s'inscrivent dans ce nouvel espoir que fonde la communauté internationale sur les femmes et les jeunes comme agents de développement. Mercredi, au Forum des affaires États-Unis-Afrique, organisé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, le président américain Barack Obama a rappelé que l'Afrique est le continent dont l'économie croît le plus rapidement au monde, avec une classe moyenne qui dépassera rapidement le milliard d'âmes. Il a invité les investisseurs américains à en prendre avantage pour créer des emplois de part et d'autre de l'Atlantique. L'épineux dossier de la crise syrienne a été évoqué au Conseil de sécurité mercredi. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé ce conseil à s'entendre pour aider les Syriens à faire la paix. Mercredi également, les chefs d'État et de gouvernement du monde se sont engagés à lancer une action multisectorielle concertée contre les causes profondes de la résistance aux antimicrobiens, un danger émergent qui menace la santé du monde. Timothée Donangmaï, New York, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le gouverneur de la Caroline du Nord a décrété l'état d'urgence hier soir en raison des violences qui ont marqué de nouvelles manifestations à Charlotte, où un homme blessé par balle se trouvait dans un état critique. Précision de Jean-Roger Bion.
La mairie avait annoncé à tort auparavant que l'homme était mort lors de violences entre civils. Pour la deuxième nuit consécutive, les manifestations de mercredi soir ont été émaillées de violence entre la police et la foule indignée par la mort d'un noir tué par un policier. Les débordements ont commencé lorsque quelques centaines de manifestants ont brisé des vitres et lancé des projectiles contre les forces de l'ordre qui ont alors fait usage de gaz lacrymogène selon l'AFP. L'objet de la colère des manifestants est la mort de Kef Lamont Scott, un homme noir de 43 ans, qui a été victime mardi d'une bavure flagrante selon eux. D'après la police, M. Scott a été mortellement blessé par balle alors qu'il refusait de lâcher son arme de poing. Ses proches affirment au contraire qu'il n'avait qu'un livre en main.
Syrie, les États-Unis et la Russie doivent s'efforcer aujourd'hui encore de sauver le processus diplomatique après une passe d'armes glaciale hier au Conseil de sécurité de l'ONU. Le groupe international de soutien à la Syrie, qui rassemble 23 pays et organisations internationales, se retrouvera une nouvelle fois aujourd'hui à New York sous les auspices de Washington et Moscou. Pendant ce temps, sur le terrain, la ville martyre d'Alep a subi sa pire journée depuis le cessez-le-feu avorté, a dénoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des bombardements ont tué au moins 12 civils, dont 2 enfants, a rapporté l'ONG.
Des soldats américains ont détecté la possible présence d'agents moutardes sur une munition tirée sur eux par les djihadistes du groupe État islamique dans le nord de l'Irak. C'est ce qu'a indiqué hier un responsable américain de la défense. Aucun militaire n'a été blessé ni incommodé, selon la même source. Une enquête de l'ONU, révélée en août, a établi que le groupe État islamique avait utilisé du gaz moutarde en Syrie dans une attaque à Mareha, dans la province d'Alep, le 21 août 2015. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui.
La Minute Éco, Nathalie Barge.
Petrofac va cesser l'exploitation d'un site gazier en Tunisie en raison d'un conflit social depuis 9 mois, a déclaré le gouvernement tunisien. Le champ gazier de Cherghi fournit 12% de la production nationale. Des salariés réclament des emplois permanents. La société britannique avait dit ne plus pouvoir financer un programme récent appelant l'État tunisien à prendre ses responsabilités. Selon Jeune Afrique, l'opposant togolais Alberto Olimpio a été condamné mercredi à 5 ans de prison ferme et au remboursement de près de 6 milliards de francs CFA à Coris Management, actionnaire d'Accent Corporation dont il était le PDG. Tout semble être organisé pour délibérément vouloir la condamnation de M. Olimpio, a déclaré son avocat Maître Léon Lefforster, annonçant qu'un appel sera interjeté. Et sachez que ce mercredi et jeudi se tiendra à Paris la première édition des Rencontres Africa 2016, un grand forum économique parrainé par le ministère français des Affaires étrangères et celui de l'économie, en collaboration avec Africa France et le Conseil économique, social et environnemental.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Coup de tonnerre, Samuel Eto'o suspendu.
Oui, l'attaquant camerounais a été suspendu jusqu'à nouvel ordre par son équipe turque Antalyaspor suite à des accusations de racisme portées sur les réseaux sociaux. Annonce du club turc hier dans un communiqué diffusé sur son site internet. Retour en arrière, cette décision intervient alors que l'ancien international camerounais est soupçonné d'avoir critiqué le président du club, Ali Safak Öztürk, sur Instagram où il a posté en turc mardi ce message « Rappelle peut-être que certaines personnes ne me respectent pas car je suis noir ». Le séjour turc de l'ancien du FC Barcelone, de l'Inter Milan ou encore de Chelsea a tourné au vinaigre ces dernières semaines, alors que la rumeur l'annonçait en partance pour Beşiktaş.
Qui défiera le Real Madrid en demi-finale du Mondial des clubs à Yokohama au Japon le 15 décembre ?
Oui, le tirage au sort a été effectué hier par la FIFA. Les Merengues affronteront soit les Mexicains du club América, soit le vainqueur de la Ligue des champions en Asie. Le Mondial des clubs, qui oppose chaque année les clubs vainqueurs des différentes compétitions continentales, débutera le 8 décembre à Yokohama, au Japon, où se disputera également la finale le 18 décembre. Le Real Madrid est directement qualifié pour les demi-finales, tout comme l'Atlético Nacional, vainqueur colombien de la Copa Libertadores, le Real de Zidane, qui va tenter donc de succéder au palmarès de la compétition à son grand rival, le FC Barcelone.
Il n'y aura pas de Jeux Olympiques à Rome.
Oui, Idrissa, arrivederci. Le nouveau maire de Rome, Virginia Raggi du mouvement 5 étoiles, a enterré la candidature de la capitale italienne à l'organisation des JO 2024. Reste en course Budapest, Los Angeles et Paris. Il est irresponsable de dire oui à cette candidature. Non au jeu du béton, absolument non. Non aux cathédrales dans le désert, a martelé Madame Raggi lors d'une conférence de presse très attendue plus de 3 mois après son arrivée à la mairie. La semaine dernière, le président du comité olympique italien, Giovanni Malago, avait prévenu que ce retrait du soutien politique enterrerait le projet.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Idrissa Seydoudia, en votre compagnie, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Violence meurtrière en République démocratique du Congo, le procureur général de la République a lancé des mandats d'arrêt contre les opposants qui ont appelé à la manifestation qui a dégénéré avec un bilan provisoire de 32 à plus de 100 morts en deux jours. Entre-temps, des appels ont été lancés pour que la frange de l'opposition qui boycotte le dialogue national y participe. Mais l'opposition posait déjà, entre autres, comme condition à tout dialogue, la libération de tous les prisonniers d'opinion et un terme au harcèlement judiciaire que subissent ses membres. Eddy Issango a joint le président national du Congrès des démocrates pour le progrès social et président de la coalition des patriotes pour la République, François-Xavier Belchika.
Il y a des morts. Mais est-ce que la population civile a des munitions, a des armes, puisque ces morts, la plupart d'entre eux sont morts par balles? Qui a tiré? On dit que le sang a coulé. C'est vrai que le sang a coulé. Est-ce la population qui marchait main nue à laquelle on peut imputer cette responsabilité? Alors que normalement, dans tout pays démocratique et qui se targue d'être républicain, les forces de l'ordre se devaient de encadrer les manifestants, justement, pour qu'il n'y ait pas de débordement. Il est regretté que plus de 56 ans après l'indépendance, malheureusement, les institutions censées fonctionner comme étant des institutions républicaines fonctionnent plutôt comme étant des institutions d'une république chikwangaise.
Mais on a vu dans les images qui circulent sur Internet des opposants qui avaient des armes qu'ils auraient ravis policiers qui ont été aussi brûlés vifs.
Les informations que nous avons par ailleurs, il semble que la police en tant que telle semblait jouer son rôle. Mais on est parti faire recours à la soi-disante garde non plus républicaine mais présidentielle pour qu'elle vienne faire la loi à sa manière, c'est-à-dire bastonner la population civile, tirer dessus comme si on tirait sur de la paix alors que ce sont des citoyens congolais. Dans ces conditions-là, pensez-vous que la population va accepter de subir le diktat? Elle se défend comme elle peut. Ceux qui sont censés faire respecter la loi usent, n'est-ce pas justement, des armes qui pourtant sont payées à la sueur des citoyens congolais pour maintenant l'utiliser à son départ et le mater.
Dans ce que l'Assemblement appelle feuille de route, vous demandez entre autres l'arrêt des poursuites contre les opposants, la fin du harcèlement pour tout dialogue. Est-ce que c'est encore possible maintenant de dialoguer avec les injonctions du procureur général de la République enjoignant que les opposants soient arrêtés?
Nous disions déjà même avant l'existence de cette feuille de route que ce dialogue-là n'est pas possible. D'abord, c'est un dialogue factice, c'est un dialogue de dupes. Par contre, pour ceux qui ont accepté de participer à ce dialogue, et nous avions même prévu que les contradictions iront à s'aggravant. Le fait nous démontre un tel comportement, une telle déclaration de la part, n'est-ce pas, de aux magistrats de la République, est-ce que cela facilite la tâche? Bien au contraire, ça ne fait que gripper davantage la machine et aiguiser les contradictions.
François-Xavier Belchika, président du Congrès des démocrates pour le progrès social.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le Cameroun organise une série de mariages collectifs pour les réfugiés venant du Nigeria et de la République centrafricaine où ils fuient respectivement les exactions de la secte Boko Haram et la crise politique. Reportage de Moki Kinzeka à Yaoundé.
Comment ça va? Comment ça va? Ça va?
Oui, ça va.
Vous êtes content?
Oui, on est content.
Ce sont des cris de joie et des applaudissements qui accompagnent chacun des 60 couples devant les mains de Manjo. Des hommes et des femmes venus du Nigeria et de la République centrafricaine se sont dit oui en présence d'une foule immense. Lamina Junior, réfugié centrafricain et âgé de 26 ans, il vient de passer la bague au doigt de Catherine Langnia. Le couple se connaît depuis 2 ans. Ensemble, ils ont fui les violences dans les pays pour s'installer à Garoua-Boulaye, dans l'est du Cameroun.
Ce qui me plaît parce que l'amour est une alliance devant Dieu, le mariage. Ce qui me fait pour rester fidèle avec ma femme, quoi.
Ces mariages collectifs sont un coup de pouce pour Mostafa Salihour, 36 ans. Il comptait se marier dans son pays, mais n'avait pas de moyens.
Ici au Cameroun, c'est le pays de sécurité. Ici au Cameroun, là, vraiment, il n'y a pas de choses qui est grave pour nous, les Centrafricains. Nous sommes rentrés ici, là, on n'a pas de difficultés.
UNHCR et l'État du Cameroun assistent les couples en assurant les transports jusqu'au lieu de cérémonie. La mairie aussi reçoit un accompagnement pour organiser les mariages. Il y a environ 300 réfugiés centrafricains au Cameroun. Selon Rode Babakonde, responsable de l'UNHCR à Manjo, le Cameroun et les Nations Unies organisent ces mariages dans le but de promouvoir la solidarité et l'égalité des genres.
La cérémonie de mariage collectif, ça rentre dans le mandat du HCR qui a pour mandat la protection des réfugiés. Et cette cérémonie-là, organisons afin de garantir surtout le couple, mais mieux protéger encore le droit de la femme après le mariage. Ce n'est pas seulement au niveau de l'homme également que ça se fait. Dans les trois régions où nous opérons avec les réfugiés centrafricains, on a organisé toujours en collaboration avec les autorités.
En organisant ces mariages collectifs, le Cameroun veut combattre la promiscuité et lutter contre les grossesses non désirées parmi les réfugiés. Le Code pénal camerounais considère l'adultère comme un acte criminel, au même titre qu'il punit les parents qui refusent de prendre soin de leurs enfants. Moki, Edwin Kinzeka, pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En marge de l'Assemblée générale de l'ONU, tenue du deuxième forum États-Unis-Afrique, l'occasion pour une dizaine de chefs d'État africains de faire un plaidoyer pour leur pays auprès des investisseurs américains. Notre envoyé spécial à New York, Tatiana Mosso, a tendu son micro à Elizabeth Littlefield, directrice générale de la Société américaine d'investissement privé à l'étranger, l'OPIC. Elle revient notamment sur les efforts des États-Unis pour investir aussi dans des pays francophones.
Nous avons essayé de changer cela. Donc depuis les derniers 18 mois, nous avons amené plusieurs investisseurs en Afrique francophone, en Afrique de l'Ouest, en Sénégal et Côte d'Ivoire, ainsi qu'en Liberia et Sierra Leone, pour lever les pays dans l'esprit des investisseurs, pour attirer leur attention vers les opportunités qui existent dans l'Afrique francophone.
Si des chefs d'État, des chefs d'entreprise sur le continent vous écoutent, quels conseils pourriez-vous leur donner pour justement attirer encore plus de partenariats, notamment avec les États-Unis, qu'ils soient dans des pays francophones ou anglophones?
Nous avons, en tant qu'OPIC, établi notre premier bureau de représentation à Abidjan, justement pour aider l'investissement américain de voir les opportunités pour investir dans l'infrastructure, les télécommunications, le logement. Nous voyons que les gouvernements dans plusieurs pays en Afrique francophone ont commencé à mettre en place un climat d'investissement destiné à attirer, faire des choses pour attirer des investisseurs.
Il a été question dans les différentes interventions ce matin des craintes que les investisseurs peuvent avoir, notamment les craintes sur la stabilité politique, sur la stabilité sécuritaire.
En tant qu'institution de développement financier, nous sommes prêtes à faire des prêts à long terme, les assurances contre les risques politiques. C'est notre métier, en fait. C'est l'incertitude qui est l'ennemi numéro un des investisseurs. Donc, nous ne pouvons pas forcer les investissements vers des pays qui ne sont pas stables pour l'instant. Donc, c'est très important pour les sociétés en Afrique de reconnaître que la stabilité économique et politique est la chose la plus importante pour attirer l'investissement étranger.
Elizabeth Littlefield, directrice générale de la Société américaine d'investissement privé à l'étranger, l'OPIC.
Jacques Aristide avec vous. Nous sommes ici au siège de l'ONU à New York où se déroule sa 71e Assemblée générale. Eh bien, nous en parlerons demain dans Washington Forum. La Syrie et la crise des réfugiés dominent les débats, mais quid de l'Afrique? Les dossiers épineux du moment, tels que la crise en RD Congo, ont-ils également la priorité? Demain dans Washington Forum, également au programme le Forum des affaires États-Unis-Afrique qu'organise le président américain Barack Obama en marge de cette assemblée. Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
C'est l'heure de parler politique américaine sur VOA Afrique à moins de 2 mois de la présidentielle du 8 novembre. On retrouve Nicolas Pineau. Nicolas, rebonjour.
Bonjour Idrissa.
La campagne se poursuit et Donald Trump toujours à la recherche de soutien dans la communauté noire.
Le milliardaire américain se trouvait dans l'Ohio ce mercredi, un état dans lequel s'est tenue la convention républicaine et dans lequel le gouverneur John Kasich ne le soutient pas. Il s'est rendu notamment à Cleveland, dans une église fréquentée par la communauté afro-américaine. Il a participé à un débat avec son colistier Mike Pence et c'est Don King, promoteur de boxe haut en couleur et bien connu ici aux États-Unis, qui a fait son introduction. On l'écoute.
Donald J. Trump, the spirit is loud and clear.
Donald J. Trump, c'est clair et net, on va créer un nouveau système, on va défaire le système actuel et rendre à l'Amérique sa grandeur.
And we will make America great again.
Puis c'est Donald Trump qui a pris la parole en parlant notamment de foi et de spiritualité.
We are going to win again as a country.
On va gagner à nouveau en tant que pays et on va gagner à nouveau pour tout le monde, pas certaines catégories. Je veux renouer les liens de confiance entre les citoyens et les liens de foi qui nous rendent forts.
That make our nation strong.
Donald Trump, le candidat républicain à la présidentielle de novembre prochain.
Et Hillary Clinton, qu'a-t-elle fait hier ?
La candidate démocrate était en Floride pour prononcer un grand discours sur le handicap. Elle en a profité pour dévoiler sa vision d'une Amérique inclusive qui donne des opportunités économiques à tous. Elle a parlé notamment de ce qu'elle a fait lorsqu'elle était secrétaire d'État en nommant le premier conseiller spécial américain pour les droits internationaux des personnes en situation de handicap. Elle en a aussi profité pour attaquer Donald Trump, qui s'était ouvertement moqué d'un journaliste handicapé du New York Times. En fait, pour Hillary Clinton, Idrissa, l'idée, c'est de montrer aux électeurs le projet qu'elle défend et pas seulement les appeler à voter contre le candidat républicain. La candidate démocrate est aussi revenue sur les nouveaux incidents à Charlotte et tout cela où 2 Noirs ont été abattus par la police.
On ne sait pas ce qui s'est passé lors de ces 2 incidents, mais on sait qu'on a 2 nouveaux noms qui s'ajoutent à la longue liste d'Africains-Américains tués lors d'interactions avec la police. C'est insupportable et ça doit devenir intolérable.
C'était Hillary Clinton, la candidate démocrate.
Enfin, la Fondation Clinton qui réduit la voilure.
Oui, la fondation créée par Bill et Hillary Clinton au cœur de toutes les critiques sur l'influence supposée des donateurs sur l'ancienne secrétaire d'État. Eh bien, cette fondation, Idrissa, va supprimer des dizaines d'emplois en vue de la possible élection d'Hillary Clinton à la Maison-Blanche, et ce pour éliminer tout conflit d'intérêts. Bill Clinton, lui, va quitter le conseil d'administration de cette fondation. Enfin, les donateurs étrangers ne pourront plus bientôt contribuer.
Merci Nicolas Pineau. La campagne présidentielle américaine s'est à retrouver dans un dossier spécial sur voafrique.com.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.